De Genève à Téhéran.
Du Caire à la Ligue du Nord.
Toute l'actualité.
Ou presque.
Dans Carrément Méchant.
On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien.
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce sixième numéro de Carrément Méchant. Nous sommes le 18 février 2015. Coucou Émilie.
Bien sûr, bonjour Yann.
Comment vas-tu?
Je vais bien et toi?
Bien. D'où reviens-tu?
Alors je reviens d'Iran en
oui.
fait.
Oh.
Parce que Carrément Méchant m'a envoyé un reportage spécial là-bas.
Et tout frais payé.
Tout frais payé, évidemment.
Oui.
Puisque nous sommes riches et puissants.
Tandis que je suis allé en brouette jusqu'à Paris pour faire quelques émissions en public, vous m'y avez peut-être vu.
Oui, il y a des priorités dans la vie, je regrette le reportage.
Exactement.
C'est un peu mieux.
Exactement, notre envoyé spécial. On va justement parler de l'Iran dans cette émission.
Et en attendant, je tiens à dire que j'étais certainement plus en sécurité en Iran que toi à Paris.
C'est vrai, avec quelques événements qui se sont passés durant ton absence. Il faut préciser à nos auditeurs que le numéro qu'ils ont entendu la dernière fois avait été enregistré fin 2014. Et quand on vous souhaitait une bonne année 2015, en fait, ça n'était pas du tout sincère.
Voilà, c'était faux.
Exactement. Avec ça, on va donc attaquer l'actualité, non pas des trois, mais des quatre dernières semaines, exceptionnellement. Et je vais t'emmener en France pour commencer.
Mais
avec la législative.
J'adore quand tu m'emmènes en France.
La législative. Mais écoute.
D'ailleurs, tu pourrais m'emmener en France.
Mais allons-y. La législative anticipée dans la quatrième circonscription du Doubs, c'était le 1er février.
Ça fait rêver quand même. Hein.
Ça fait rêver.
De l'actualité brutale comme ça.
Oui, du hard news.
Sensationnel, c'est ça, il y a du sang partout.
Exactement. C'est quand même super intéressant pour la logique des différents partis, donc on va commencer par un sujet assez politique, mais ça vaut vraiment le coup. Donc pourquoi est-ce qu'on parle d'une législative anticipée dans la quatrième circonscription du Doubs? Eh bien parce que Pierre Moscovici, qui est un homme politique de premier plan, membre du Parti Socialiste, avait gagné en 2012 lors des législatives, donc la législative régulière qui suivait les élections présidentielles, avec 49% des voix dans cette circonscription du Doubs. L'UMP avait fait 26% et le Front National, le candidat du Front National, avait fait que 24% seulement. Donc voilà, grosse avance pour le Parti Socialiste avec Pierre Moscovici. Le 1er novembre 2014, par contre, notre ami Mosco devient commissaire européen après avoir bien...
J'ai déjà pris comme surnom.
Après avoir bien précédé, entre parenthèses, hein, le père Mosco, vraiment, il était mis en avant par Hollande, c'était une grosse bataille de ce côté-là. Il va devenir commissaire européen aux affaires économiques et monétaires, à la fiscalité et à l'union douanière au sein de la commission Juncker. Donc
l'actuelle... Ah, c'est glamour, hein, c'est encore plus glamour
voilà.
De participer aux élections législatives du Doubs.
Exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, son siège législatif, son siège au Parlement représentant cette quatrième circonscription du Doubs, eh ben, il est désormais vacant. Qu'est-ce qui se passe quand un siège est vacant? On n'attend pas la prochaine fois, on n'attend pas 2017, on fait des élections anticipées. Alors, au premier tour...
Ça sent que t'es en Sciences Po, Yann, c'est bien, bien écouté encore.
Au premier tour de ces élections anticipées, ce qui s'est passé début février, c'est qu'il y a eu déjà seulement 40% de participation, déjà on part mal, avec le Front National en tête à 32,6%, le Parti Socialiste un peu à la bourre à 28% et l'UMP, le parti principal de droite, à seulement 26%.
Oups.
Donc tous les partis ont progressé, sauf... non, le Front National a progressé, le PS a beaucoup régressé. Le PS a beaucoup régressé, évidemment, l'effet du gouvernement et de la politique de Hollande, qui n'est pas forcément appréciée de partout, s'est fait sentir, et l'UMP a simplement stagné. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au premier tour de 2012, pour la même élection législative pardon, dans le Doubs, c'était 60% de participation. Qu'on avait vu. Donc, c'est quand même un petit peu gênant. Le candidat UMP Charles de Mourges a donc été éliminé dès le premier tour. Ce qui a laissé les électeurs de la 4e circonscription du Doubs devant un duel, Front National en tête, Parti Socialiste en challenger.
Oups.
Alors que c'était quand même le siège justement d'un homme politique de premier plan. Ça l'a fout un peu mal pour le PS, mais ça l'a foutu encore plus mal à l'UMP, parce que l'UMP devait donner une consigne de vote, ou ne pas en donner une. La première réaction de Sarkozy à ce résultat, donc l'échec du candidat UMP, Sarkozy qui est, je le rappelle, donc président de l'UMP depuis quelques semaines désormais, il a dit... Vraiment texto, ce n'est pas moi qui l'ai désigné, c'est ce fameux triumvirat, les Juppé, Fillon, Raffarin qui a choisi ce con. Et pour préciser sa pensée, il a dit...
T'aurais pas eu besoin de dire que c'était Sarkozy.
Ça lui ressemble beaucoup, mais justement...
C'est signé.
Il nous dit, on va dire que depuis 2012, l'UMP avait gagné 12 législatives partielles sur 12 et qu'il a suffi que je prenne le parti pour que le candidat UMP soit éliminé au premier tour, mais moi je n'y suis pour rien.
En bien tout cas, évidemment.
C'est le canard enchaîné qui rapporte ces déclarations de Nicolas Sarkozy. Et très franchement déjà, cette étape-là de l'actualité, c'est bien de voir que Sarkozy est revenu, on a des belles phrases qui claquent. Merci beaucoup l'UMP pour l'avoir réélu à ce poste. Alors, au niveau des hommes politiques de premier plan, cette fois-ci du côté de l'UMP, Alain Juppé, ancien Premier ministre sous Chirac, a déclaré qu'il voterait Parti Socialiste. La numéro 2 de l'UMP actuellement, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était contre la ligne Buisson, donc contre une ligne dure de la campagne de Sarkozy en 2012, a elle aussi...
la ligne Buisson et Michel Sapin.
A elle aussi déclaré... Michel Sapin qui est ministre socialiste, attention.
Je crie beaucoup.
Ne confondons pas.
La politique française.
Bah écoute, ils font l'école buissonnière, mais Nathalie Kosciusko-Morizet a déclaré elle aussi qu'elle... Si elle se trouve dans cette situation-là, elle voterait plutôt pour le candidat PS plutôt que pour le candidat Front National. Sarkozy a été un petit peu plus subtil, il s'est dit « on est contre le Front National, je suis contre le Front National, mais en même temps, la liberté de vote est à nous, est à nos électeurs. »
Votez ce que vous voulez, mais pas ça.
Votez contre le Front National, oui. Mais pas nécessairement pour le Parti Socialiste. Donc votez blanc ou Parti Socialiste,
oui,
en gros.
Oui, merci, mais enfin, c'est quand même un peu idiot, quoi.
Alors, la chose amusante, toujours par rapport à Sarkozy, c'était quand même qu'il était à Abu Dhabi, donc aux Émirats Arabes Unis, pour une conférence privée rémunérée pendant la réunion du bureau politique sur cette question qui est quand même, en gros, est-ce qu'on choisit Front National ou Parti Socialiste ?
Je crois que les Émirats Arabes Unis sont obligés de rémunérer leurs conférences, sinon personne n'irait jamais là-bas. Enfin,
c'est vrai que c'est pas forcément très très riant au-delà des...
Disons,
au-delà des salles de conférences climatisées, c'est pas très très riant comme endroit, aussi bien pour les gens qui y vivent que simplement pour y faire du tourisme.
Absolument.
Toutefois, un proche de Sarkozy a déclaré le bureau politique était convoqué le mardi, on a respecté le jour de la convocation, il était joignable, Sarkozy, toute la journée, cela n'aurait rien changé aux discussions le lendemain. Donc apparemment, même quand il est à Abu Dhabi, Sarkozy, chefise et est président suffisamment bien pour l'UMP, même de très très loin. Et finalement, donc, le bureau politique de l'UMP, tellement bien dirigé par Sarkozy, a décidé de déclarer quelque chose de différent de Sarkozy et s'est prononcé pour ce qui s'appelle désormais le Nini. Alors qu'est-ce qu'on entend par le Nini ? C'est la ligne, donc, ni Front National, ni Parti Socialiste, quand l'UMP se retrouve face à un choix entre les deux. C'est comme un maître un peu optimiste qui pensait que le chien qu'il n'avait plus vu depuis plusieurs années continuerait de lui obéir, Sarkozy. L'UMP, c'est la grosse désillusion pour lui, appuyé après donc une victoire en demi-teinte, je rappelle, 60% avec Bruno Le Maire qui était genre à une trentaine de pourcents. Non, l'UMP n'est clairement plus la voix de son maître Sarkozy.
Oula.
Ça, c'est déjà un premier caillou dans sa botte. Et puis finalement, c'est le candidat PS. C'est le candidat PS qui l'a emporté avec 51% des voix face à la candidate Front National à seulement 49%. Donc ça s'est joué à très très peu. C'était de tellement
ça, c'était
peu.
Quand
c'était donc une semaine après le premier tour en février, début février.
Okay, début février.
Pour le coup, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la participation était en hausse. Autrement dit, pour une fois, ce n'était pas la hausse de participation qui a mis à mal le Front National, puisque le Front National a fait 49%. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont convaincus et qui sont de plus en plus convaincus que dans ce genre de situation-là, c'est intéressant de voter Front National. Est-ce que c'est des gens déçus par la gauche ? Est-ce que c'est des gens déçus par la droite ? C'est difficile de le dire dans l'état actuel des choses, parce qu'il n'y a pas eu de sondage précis, d'études qui ont été faites sur la 4e circonscription du Doubs. Et ce serait un peu une débauche de moyens pour pas grand-chose, il faut bien l'admettre. Mais c'est quand même intéressant de voir cette situation assez étonnante, 49% pour la candidate Front National dans le Doubs, qui honnêtement dans ses déclarations le considérait carrément comme une victoire, et le candidat socialiste qui avait gagné à 51% quasiment comme une défaite. Et voilà, le Nini n'a pas été respecté finalement, il n'y a pas eu d'abstention, au contraire il y a eu plus de gens qui ont participé, donc là aussi l'UMP l'a eu dans
et
l'os
voilà.
Exactement. Chose promise, chose due, Émilie, maintenant
absolument,
nous nous rendons en Iran.
Ah, exactement.
Oui.
Puisque vous n'êtes pas sans savoir que le 11 février était l'anniversaire, le 36e anniversaire de la révolution islamique en Iran.
Seulement 36 ans.
Seulement 36, ouais, ça va, ils sont encore jeunes, ils sont dans la force de l'âge.
Ouais.
Et je pensais qu'à l'occasion, je pourrais vous donner une petite leçon d'histoire.
Allons-y.
Alors, allons-y. Que s'est-il passé le 11 février 1979 ?
La révolution islamique.
Oui, c'est bien, bravo.
Merci.
Tu écoutes bien.
Mais oui.
Et c'était quand même un événement déterminant du XXe siècle qui a changé toutes les dynamiques du Moyen-Orient, qui est, comme vous le savez, un endroit où c'est un peu le bordel.
Oui.
Enfin bref.
Ah bah, la fameuse guerre Iran-Irak.
Oui, clairement. Mais disons que ça vaut la peine de comprendre un petit peu ce qui s'est passé là-bas.
Allons-y.
Et allons-y, alors, donc en 79, après que les États-Unis aient mis le Shah d'Iran, aient mis le fils du Shah d'Iran sur le trône, c'était un peu le bordel, les Iraniens n'étaient pas très contents, Et puis finalement, le chat d'Iran est parti en vacances en Égypte et il n'est jamais revenu. Et pendant ce temps...
Il était parti dans un hôpital ou comment ça se passe?
Alors officiellement, il est parti en vacances. Hein. Il est parti en vacances, mais non, mais je reviendrai plus tard. Et il n'est jamais revenu.
C'était la croisière chamuse. Pardon, au revoir.
Non, j'ai bien aimé, c'était bien.
Oh, merci.
Une gommette.
Et
c'est à ce moment-là que le célèbre Ayatollah Khomeini,
mais oui,
c'est le barbu,
un grand démocrate,
voilà, le barbu qui a l'air joyeux et motivé tout le temps.
Excuse-moi, tous les chefs religieux de ce coin-là ont l'air joyeux et motivés. Hein.
Non, mais alors autant le président actuel, Monsieur Rouhani, il a un air assez jovial comme ça.
Ahmadinejad aussi. Je sais pas pourquoi tout le monde en voulait Ahmadinejad, à part comment dire ses décisions très très violentes et très brutales. Il avait l'air sympa.
Il avait une frange.
C'était la frange.
Enfin, la coupe au bol. Je suis désolée, ça le fait pas.
Mais il avait l'air simple, il était souriant. Il était souriant, je trouve.
Oui, il disait mort à l'Amérique avec le sourire, c'est vrai.
Ça.
Il y avait l'enthousiasme.
Et moi j'aimais bien.
Non, mais tu. Fin...
Au moins, enfin voilà. J'aurais mangé avec, j'aurais bu une bière avec.
Il y a certainement un fan club que tu peux joindre.
Hein. Exactement. Contre Khomeini pour Ahmadinejad. Je vois pas ce qu'il y a de contradictoire.
Absolument. Et du coup, c'est le moment qu'a choisi ce monsieur Khomeini. Pour revenir de France, où il était en exil. Et nos amis français ne sont évidemment pas sans savoir qu'ils ont hébergé pendant une année ce sympathique personnage,
oui,
qui a vécu dans le charmant petit village de Naufle-le-Château, dans le département des Yvelines. C'est pas drôle, ça s'appelle vraiment Naufle-le-Château, c'est pas de leur faute.
C'est typique, quoi, c'est ça qui est marrant.
Ah, ça fait très Ayatollah. Hein,
ouais, c'est genre... vous voyez l'Ayatollah Khomeini sur le pont du Gard, quoi.
Non, alors ce qui est rigolo, c'est que du coup, moi, j'ai été regarder sur le site internet de Naufle-le-Château.
Oui, non.
Qui est un petit site internet tout mignon.
Jumelé avec Téhéran.
Non. Alors pas encore, non, mais tu rigoles, mais je te parlerai de ça plus loin.
Ok.
Et donc, ils ont une rubrique histoire, ils vous racontent l'histoire de Naufle-le-Château, alors ils vous parlent des Mérovingiens, etc., ils vous parlent de Naufle-le-Château à la Révolution française, ils vous disent que à Naufle-le-Château a vécu le célèbre mime Rufus, et c'est vrai, il est encore vivant, et je ne savais absolument pas qui était le célèbre mime Rufus. Par contre, Wikipédia nous apprend que Marguerite Duras a également vécu à Naufle-le-Château, mais apparemment, elle n'est pas assez bien pour eux. Ou alors, je ne sais pas, et toujours est-il que, évidemment, ils ne mentionnent pas non plus l'Ayatollah Khomeini sur leur site internet. Mais du coup, l'Ayatollah Khomeini, lui, était certainement très attaché à ce charmant petit village, puisque quand il est revenu à Téhéran, il a renommé la rue sur laquelle se trouvait l'ambassade de France, qui s'appelait auparavant la rue de France, en rue Naufle-le-Château.
Oh.
Et disons que Naufle-le-Château en persan, ça ne se traduit pas très bien, donc cette rue s'appelle vraiment littéralement, c'est Naufle-le-Château.
Naufle-le-Château.
Le château. et c'est en bafouant vraiment gaiement l'orthographe française.
Hein. Oh,
c'est non, alors c'est pas grave, c'est pour le geste.
Il est romantique.
Le deuxième fun fact sur Naufle-le-Château.
Je savais pas qu'on pouvait y avoir des fun facts sur Naufle-le-Château, mais allons-y.
Et il y en a deux. En
fait. Oh là là.
Je ne croyais pas.
C'est beaucoup trop pour une seule.
C'est beaucoup trop. Mm-hmm. Alors déjà, après la Révolution, la République islamique d'Iran a demandé à la commune de Naufle-le-Château si elle pouvait transformer la maison de Khomeini en musée. Hein. Ce à quoi la commune de Naufle-le-Château a répondu en détruisant la maison de Monsieur Khomeini pour éviter qu'on y fasse un musée, ce qui était assez direct comme réponse. Et le dernier fun fact, c'est qu'en Iran, comme vous le savez peut-être, l'alcool est interdit.
Ah bon ?
Et on vous raconte que c'est à cause... Enfin, évidemment, c'est une république islamique, voilà.
C'est l'interdit religieux,
mais pas du tout. En fait, il se trouve que c'est à Naufle-le-Château qu'est née la marque de liqueur Grand Marnier. Et on raconte que Khomeini, rentrant à Téhéran avec une énorme gueule de bois, est sorti de l'avion en disant « J'interdis l'alcool dans tout le pays, cette interdiction dure toujours. »
La pire hangover du monde, quoi.
La pire hangover du monde, exactement. Et donc, maintenant, vous en savez un peu plus sur ce qu'il s'est passé. Donc, il est rentré. Et ensuite, il y a eu un peu de grabuge à l'ambassade américaine.
Du rififi.
Si jamais vous avez loupé cet épisode, si vous n'avez pas vu Argo avec un Ben Affleck tout barbu qui va sauver des otages.
Ben Affleck, excuse-moi, non, mais c'est...
Donc, pour célébrer, en fait, l'anniversaire de la Révolution, chaque année, l'ambassade américaine ouvre ses portes au public. pendant 10 jours. Et il se trouve que j'étais là-bas pendant ces 10 jours et j'ai eu l'occasion d'aller visiter l'ambassade américaine. Et donc, c'était un petit musée tout à fait mignon. Avec, non, pour vraiment, il y a des musées, il y a des statues en cire qui représentent l'ancien ambassadeur. Il y a des petits panneaux explicatifs qui nous racontent comment tous les diplomates étaient des agents de la CIA. Et tout ça se fait dans une ambiance très bon enfant, avec un guide qui ne parle pas un mot d'anglais, mais c'est pas très grave, qui vous encourage à prendre des photos de ci et ça. Et avec un nombre assez sympa de propagande anti-américaine, dont un paillasson sur lequel il est écrit « Abat l'Amérique ». J'ai demandé si on pouvait...
Ils vendent des goodies, ils ont un magasin à la fin de la visite.
Justement, il n'y avait pas de magasin souvenir, mais si ils vendaient le paillasson, je l'aurais acheté. Bah, il faut avouer que c'est quand même... ça a quand même vraiment, vraiment de la classe.
J'adorerais le voir en entrant chez toi. Oh, l'Amérique.
Et voilà, alors moi, le seul truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi si l'Iran est tellement anti-américain et anti-Israël, etc., et si cet événement de la prise d'otage est vraiment si fondateur, pourquoi est-ce qu'il n'ouvre pas le musée toute l'année ? En l'occurrence, là, il n'ouvre que 10 jours. Au niveau de la rentabilité, c'est pas terrible.
C'est effectivement une question importante. Une autre question importante à laquelle je veux un peu instruire nos auditeurs, c'est que par rapport à l'Iran, c'est la Suisse aujourd'hui qui représente les États-Unis.
S'il y a de nouveau une prise d'otage, ce sera probablement à l'ambassade de Suisse.
Exactement. Donc, comme ça, vous avez l'adresse. on va passer à la suite.
Passons à la suite. Eh bien, dans ce cas-là,
je t'embarque en Italie cette fois-ci. Et comme le chante le groupe Lily Club, faire une virée à deux, et je ne sais plus comment ça va, mais ça parle de l'Italie, mais je ne me souviens plus des paroles précisément.
Ça, c'était une bonne référence.
Exactement. Merci. Donc, nous allons plus particulièrement en Lombardie, au nord de l'Italie, puisqu'on va parler d'une petite loi sur les édifices religieux. Et ça, je l'ai appris via Le Figaro. Donc, bonne ambiance en Lombardie, au nord de l'Italie. La Ligue du Nord, la Lega Nord, comme on dit en Italie, y a fait voter un texte qui, en pratique, interdit la construction de mosquées et de synagogues. Mais comment en est-on arrivé là, vas-tu me demander ?
Voyons donc. Mais comment en est-on arrivé là ?
Merci. Eh bien, la loi, à la base, elle s'intitule « Principe de planification de l'équipement pour les services religieux ». Jusque-là, ça a l'air innocent,
ça fait
tout
assez
se passe bien.
Quand même.
Exactement, c'est administratif, on organise. Roberto Amelli de la Ligue du Nord, qui est donc l'initiant et le rapporteur du texte, a déclaré par rapport à ça, on a pu éviter un désastre, sinon les musulmans ne s'arrêteront jamais. Et de préciser sa pensée en disant, mosquée ne veut pas dire terroriste, mosquée veut dire risque de terroriste. Alors j'ai deux choses à dire par rapport à ça. D'abord, c'est marrant parce que sur le même principe, on peut dire qu'un élu de la Ligue du Nord, ça ne veut pas forcément dire loi à la con, mais risque de loi à la con. Et deuxièmement, avec ça, Anneli espère probablement passer d'une étiquette d'islamophobe à une étiquette d'islamo-préoccupé ou toute appellation hypocrite imaginable. Je laisse à nos auditeurs sur Twitter ou en commentaire imaginer une étiquette pour lui. Ce texte donc empêche l'apparition de mosquées.
L'apparition de mosquées.
Principalement, je parlais
d'ailleurs,
de synagogues.
C'est comme ça que les musulmans font. Partout où ils vont, il y a des petites mosquées qui poussent comme des champignons.
Ouais. Écoute, c'est comme les minarets en Suisse. Mais on va y venir aussi aux minarets en Suisse. Donc, de synagogues, mais principalement de mosquées, parce que c'est quand même justement la religion musulmane qui est plus ou moins visée, d'ailleurs de l'aveu même des membres du parti Lega Nord, parce qu'ils limitent la construction d'édifices religieux. Selon les principes suivants. Tout d'abord, il faut tenir un référendum régional pour que la construction soit possible. Alors, je vous laisse deviner les résultats si des gens là-bas élisent suffisamment de membres de la Lega Nord pour qu'une loi comme ça puisse passer. Deuxièmement, la loi va alourdir la procédure administrative de manière générale. Donc là aussi, effectivement, c'est des bâtons dans les roues. Les bâtiments doivent correspondre, je cite, au paysage lombard typique.
Ah mais tu sais, on peut faire des mosquées en forme de chalet, enfin,
exactement.
Il
y a peut-être moyen effectivement de s'arranger de ce côté-là. Et enfin, les bâtiments.
Servir de la polenta à la sortie de la prière du vendredi.
Mais
puis
oui,
tu diras bien.
C'est le bâtiment la partie de la loi la plus importante à mon avis. Les bâtiments doivent être surveillés par des caméras, car finalement ces gens-là sont louches, on ne sait pas trop ce qu'ils font.
Oui,
il faut mettre des caméras, ça a un sens.
C'est vrai que
c'est pas très très précis. À leur place, personnellement, je préférerais mettre des micros pour entendre ce qu'ils disent. Au moins, c'est plus utile qu'une caméra et ça montre vraiment l'aspect un petit peu de confiance absolument zéro par rapport aux musulmans. Ce serait au moins efficace par rapport à
leur confiance. Non, mais alors autant tous leur mettre des bracelets de surveillance.
Ça pourrait être intéressant aussi, très franchement, un truc qui capte leur mouvement, qui puisse voir à quelle distance ils sont de la la mosquée, voir s'ils sont en groupe, un truc comme ça. Tu sais, genre, il y avait une loi en France sur pas plus de 3 jeunes dans une même cage d'escalier. Peut-être qu'il faudrait faire en sorte, c'est par vrai. Exemple, en Lombardie, c'était passé sous quand Sarkozy était ministre de l'Intérieur, il faudrait par exemple, mais c'était pendant les émeutes, ouais. Il faudrait par exemple, en Lombardie, je ne sais pas, faire quelque chose, par exemple, sur un radius de plus de 100 mètres, pas plus de 3 musulmans, sinon intervention de la police, voilà. Et on disperse. Ouais. Je sais pas, c'est peut-être. Là, non, je leur propose, ouais, ça, je leur propose des choses.
Oui, voilà. Moi, je pense que tu devrais leur écrire.
Moi, je suis charitable. Alors, cette histoire, on faisait des vannes là-dessus il y a un instant, ne peut évidemment que me rappeler celle du référendum de 2009 sur les minarets en Suisse, où le peuple suisse,
grand
donc,
moment de notre histoire,
a accepté de faire entrer dans la constitution.
C'est
suisse.
Notre petite révolution islamique à nous.
Ah oui, alors
enfin,
ça.
À l'envers.
C'était une révolution islamique assez intéressante. Le peuple suisse a accepté de faire entrer dans la constitution suisse un alinéa 3 à l'article 72 intitulé Église et État, précisant que la construction de minarets est interdite. Alors certes, les minarets ne sont pas nécessaires, obligatoires.
Les minarets désignent vraiment la
petite tour.
La tour qu'il y a sur une mosquée. Il y en a une ou il y en a deux.
Qui sert au muezzin à faire l'appel à la prière.
Voilà, historiquement. Mais disons qu'actuellement, ça fait partie simplement de l'architecture d'une mosquée.
Exactement. C'est une partie, certes, optionnelle de la mosquée. C'est pas indispensable. Voilà. Pour prier, on doit bien ça aux initiants de ce texte-là. Toutefois, la présence...
Mais c'est joli, à part ça.
La présence de ça dans la Constitution... est déjà assez absurde, et carrément dans l'article 72 qui est Église et État, est carrément un non-sens. Mmh. Dans ces deux cas, c'est un critère...
Église et État.
Oui, oui,
l'Église
oui.
est interdite.
Dans les deux cas, dans la loi lombarde, sur les synagogues et les mosquées aussi bien que dans la loi anti-minaret, c'est donc un critère culturel qui est avancé sur l'idée que ça ne correspond pas très bien à la façon dont, par exemple, la religion est considérée en Suisse, ou alors à la façon dont les bâtiments et l'architecture et la présence des musulmans est vue en Italie du Nord. Alors, il y a une idée d'envahissement là derrière, on est bien d'accord, chez ces partis-là. Toujours à la Ligue du Nord, Frédéric Lena, qui est conseiller du parti, a déclaré que les musulmans ne sont, je cite, pas indispensables en Lombardie. Wow! C'est quand même une déclaration assez rock'n'roll, assez punk,
dirons-nous. C'est vrai que je suis certaine que lui, il est indispensable à la Lombardie.
Alors, j'ai fait mon petit travail de journaliste et je me suis demandé, au juste, ils sont combien ces musulmans ? Alors, selon mes sources, qui sont simplement les offices statistiques des différents pays...
Je crois que selon la Ligue du Nord, ils sont 7 milliards.
Oh, c'est possible, c'est bien possible. Mais selon mes sources, qui sont en tout cas les offices gouvernementaux de la statistique, en Suisse, on en compte 5,7% de la population. En Italie, 2,6% seulement, contre 7% de moyenne européenne et 7,5% en France. Dans le reste de la Suisse, on compte 38% de catholiques, 27% de protestants et 21% sans confession, comme on en a parlé lors du dernier numéro sur l'histoire et le futur de la Suisse, de carrément méchant. Et en Italie, on a 80% de chrétiens et 6% sans confession.
Bah, chrétiens comprenant les catholiques et les protestants sans distinction, plus les orthodoxes,
sont
finalement...
Mais 80% ouais. En termes de majorité culturelle, on fait pas mieux. On fait pas mieux. Il y a 6% de sans confession non-croyants, athées, etc. Donc, je rappelle juste pour l'Italie, 80% de chrétiens, 6% sans confession, 2,6% de musulmans. Donc ils sont troisième rang. Dites donc la Ligue du Nord, vous devriez plutôt vous méfier des gens qui croient en rien plutôt que, et tenter de faire passer une loi pour nous faire retourner à la messe. À mon avis, ce sera plus efficace qu'introduire quelque chose qui complexifie l'arrivée de mosquées. Honnêtement, parce qu'au niveau danger culturel, je pense plutôt qu'il est de ce côté-là, du côté des gens qui croient de plus en plus à aucune religion plutôt que de ceux qui croient en l'islam. Ce n'est que mon opinion, mais enfin, vous l'avez. Et pour le coup, maintenant qu'on a fait le tour de mon opinion, on va faire le tour de la tienne avec deux brèves. On va d'abord aller en Ukraine.
Oui, puisque moi j'aime beaucoup vous emmener en Ukraine.
Mais oui.
Et je m'excuse d'avance, puisque l'histoire se répète et ne se ressemble pas. Mais dans le cas de l'Ukraine, l'histoire se répète et se ressemble beaucoup.
Eh oui.
Alors j'ai hésité à reprendre la partie de l'émission qu'on avait déjà consacrée au cessez-le-feu en Ukraine, histoire d'éviter de devoir travailler. Mais
on a même titré un épisode là-dessus.
J'ai fait mon travail et on a imposé, alors on a imposé, c'est-à-dire qu'il y a eu des réunions à Minsk avec François Hollande, Angela Merkel et Vladimir Poutine, les trois compères, comme on les appelle.
Il n'y en avait pas une autre avec Poroshenko aussi?
Oui, lui il est là, mais je crois que...
Il fait figuration.
Oui, c'est ça. On leur dit toujours, non, mais toi, tu peux revenir plus tard, on n'a pas besoin de toi.
Toi, t'as trois fois moins d'armes, de toute façon. Donc, en fait, on s'en fout un peu de ce que tu fais.
Oui, je crois que c'est un peu un trouble-fait, parce qu'il dit quand même, ouais, mais les gars,
c'est comme De Gaulle à Yalta.
C'est mon pays qu'on envahit ici, là.
C'est exactement comme De Gaulle à Yalta quand on y pense, mais c'est-à-dire qu'il est là, mais non, il est même pas là.
Il est là, il boit des coups.
Il aurait fait figuration, non, il était même pas à Yalta, il était à d'autres trucs, mais il n'était pas à Yalta, De Gaulle.
Alors enfin bref, la réunion de Minsk s'est mise d'accord sur un nouveau cessez-le-feu, puisque l'ancien, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé avec l'ancien. Je pense qu'un cessez-le-feu, c'est, je sais pas, c'est comme un yaourt, on l'achète et puis enfin il apparaît, au bout d'un moment il est périmé, il faut en racheter un nouveau et il faut faire ça à intervalles réguliers puisque sinon ça ne marche pas. Mais cette fois-ci, l'Union européenne s'est dit, bon, il y a peut-être un problème avec ce cessez-le-feu, donc on va préciser ce qu'on entend par cessez-le-feu.
Ne pas tirer.
Et là, non, tu rigoles, mais la porte-parole de l'Union européenne,
oui.
J'ai pas noté son nom,
non,
mais
oui.
elle a dit dans un communiqué, un cessez-le-feu est un cessez-le-feu, ce qui signifie que les tirs doivent cesser. Fin de citation.
Ah.
Nous remercions l'Union européenne pour cette précision. Nous sommes à présent certains que le cessez-le-feu va être respecté maintenant que les gens ont tout compris. Comment ça fonctionnait ?
Poutine est un peu psychorigide. Hein. Je ne sais pas si tu connais bien sa personnalité, mais il n'est pas du genre à se laisser dicter la définition d'un cessez-le-feu par une pauvre commissaire européenne.
Alors moi, je leur suggère en fait de changer le nom du cessez-le-feu et d'appeler ça, par exemple, arrêter de tuer des gens ou bien poser cette mitraillette. Parce que cessez-le-feu, peut-être qu'ils le prennent littéralement. Tu vois, c'est l'hiver, il fait froid, t'allumes un feu, ils l'ont éteint.
Ah. Maintenant, ils se gèlent et du coup, ils se battent pour aller plus vite.
C'est ça. Alors je leur suggère de changer quelque chose parce que pour l'instant, depuis lundi, il y a de nouveau eu 5 morts. C'est-à-dire lundi étant la date d'entrée en vigueur du cessez-le-feu. On voit, tout va bien dans le meilleur des mondes.
La réponse est toujours la même, c'est pas nous. Mais c'était pas eux dès le départ, c'était pas la Russie. Les chats étaient no-name, il n'y avait pas de drapeau ou de... C'était bien, c'était l'envahissement discret.
C'était des mecs qui passaient par là avec un fusil.
Oups, on n'a plus le droit de tirer sur notre propre population ? Comment ça, c'est pas notre propre population ?
C'est
compliqué la géopolitique.
Voilà, c'est ça, c'est compliqué la géopolitique.
Si on peut plus le tirer sur des... Non, franchement, je veux dire, j'ai des armes, j'ai acheté les armes, j'ai acheté les munitions... Je peux m'en servir, quoi.
Mais va dire ça aux usines d'armement qu'on a en Suisse.
Il y en a même en France, des usines d'armement.
Voilà, il y en a même en France, mais en l'occurrence, c'est pas de ça dont on va parler. On a beaucoup, beaucoup parlé de la France ces derniers
temps. Comment tu pètes ma transition alors,
Alors en France, on a beaucoup parlé de la liberté de la presse avec les attentats de Charlie Hebdo. Mmh. Ce qu'on va faire, ce qu'on ne peut pas faire, le gouvernement est monté autour en disant en France, nous défendons la liberté d'expression, nous défendons la liberté de la presse, nous sommes une nation libre et nous ne nous laisserons pas dicter nos choix. Et puis,
Voltaire.
Ah mais je viens de comprendre ta transition, Yann. Excuse-moi.
Bravo. Donc là, j'ai fait le truc le plus paternaliste du monde, je vais taper dans le dos, je précise.
Mea culpa. Mais, et ce gouvernement qui dit que la France est une nation libre, etc., c'est quand même une nation qui est engagée dans des conflits militaires dans le monde et qui a besoin de commander des armes.
À vélo. On dépasse. Non, d'accord.
Quoi ? De commander des armes et de commander des avions. Et puis, le gouvernement français a notamment commandé des Rafales, qui sont...
C'est Dassault non qui fait les rafales.
Voilà, c'est Dassault qui fait les rafales.
Et bon Dassault.
Voilà, et puis il voulait vendre ces rafales à l'Égypte.
Général
24 avions plus une frégate et des missiles qui devaient d'ailleurs se passer lundi. Et le journal Le Monde a été interdit de couvrir cet événement. Par le gouvernement français qui se baladait dans la rue avec une pancarte je suis Charlie, je défends la liberté de la presse. Vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est un scandale. Même Le Monde ne sait pas pourquoi ils ont fait ça.
Bizarrement, Le Figaro.
Franchement, je sais
on
pas.
Parle
c'est
moins,
vraiment le directeur du Monde a écrit une news sur les sites internet disant on ne sait pas ce que nous reprochent les autorités françaises.
Je faisais une manne sur le Figaro parce que Le Figaro appartient à Dassault en fait.
Ah.
Voilà.
Oui, c'est juste.
Donc bizarrement, tu te fais accréditer plus facilement.
Apparemment, Le Monde avait publié un article en rappelant en fait au gouvernement français la réalité du régime égyptien qui n'est pas tout à fait sympathique. Et puis peut-être que si on leur donne des avions de combat, ils vont les utiliser pour combattre, peut-être.
Oui.
Mais dans tous les cas, le gouvernement français est un gros hypocrite.
En gros, ce que lui a répondu le gouvernement français, ce qu'a répondu le gouvernement français au Monde, c'est comment vous écrivez Realpolitik avec deux cas. Voilà quoi, c'est très franchement.
Donc l'unité nationale, oui, mais pas trop.
Hein? L'unité nationale, oui, mais liberté de la presse, parfois, hein, faut pas non plus faire n'importe quoi. On passe de la liberté de la presse à la liberté de drapeau, qui n'existe pas d'ailleurs pour nos amis européens et pour nos amis russes. Pourquoi est-ce que je vous parle de drapeau ? Parce qu'on passe à la partie suisse de notre émission, la partie actualité suisse avec deux infos, et la première d'entre elles, c'est un peu plus grand qu'une brève, je vais vous parler un petit peu du drapeau suisse. La Suisse avait fait sensation l'an dernier lors des Jeux Olympiques de Sochi en râlant contre son...
Vous admirez la capacité de Yann à suivre l'actualité avec une année de retard.
Exactement. C'est comme ça que je prépare l'émission. Il a même pu me faire remarquer sur Twitter, ça d'ailleurs. L'actualité avec un décalage. C'est pour ça que nous sommes une émission décalée. Alors, la Suisse avait fait sensation l'an dernier lors des Jeux Olympiques de Sochi en râlant contre son propre drapeau, ou plus particulièrement contre la version de son propre drapeau qui avait été hissée, notamment lors des remises de médailles. Le malheureux bout de tissu était rectangulaire alors qu'il est censé être carré.
Notre drapeau est carré.
À la différence de la plupart des autres nations, les seules exceptions étant, à ma connaissance, la Suisse et le Vatican.
Le
Népal, d'accord, très bien. Le Vatican aussi, parce que le Vatican, en fait, a largement repompé celui de la garde suisse du Vatican, qui a lui-même s'est inspiré celui du drapeau suisse. Donc, c'est finalement assez
logique. Le Népal ayant un drapeau constitué de deux triangles,
d'accord,
si jamais.
D'accord, ça doit être pratique à faire.
Voilà.
Donc, bis repetita en ce début...
Imagine comment ils se sentent, les Népalais. Hein.
En ce moment, chinois. Bis repetita en ce début d'année, cette fois-ci à Bruxelles, mardi 3 février, la Commission européenne a donc hissé un drapeau rectangulaire et franchement moche dans ses proportions.
Quand on regarde la photo, j'ai l'image sous les yeux, ça
c'est dégueulasse.
Voilà, ça attaque
la rétine dans ses proportions, donc entre la croix et les bords, c'est vraiment du travail de cochon. La Commission européenne a, je cite la journaliste Isabelle Horry de la RTS, correspondante à Bruxelles, reconnu que son service du protocole a acheté et hissé par erreur un drapeau suisse rectangulaire. Où elle a bien pu l'acheter, où ils ont bien pu l'acheter, je ne sais pas, mais probablement chez un Pakistanais au bout de la rue. Ça date d'une loi de 1889, cette histoire de drapeau carré, une loi qui fait 18 pages et qui s'appelle « Loi sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics », ou encore « Loi sur la protection des armoiries, la LPAP ».
Le pape,
exactement.
Je crois qu'il y a un lien là.
Voilà le pape avec le Vatican.
Je crois.
Franchement,
oh mon Dieu.
On est au début d'un truc, tu sais, façon Dan Brown. Je pense qu'on peut écrire un roman et faire une adaptation complètement merdique au cinéma. Donc cette loi dit la croix suisse consiste en une croix blanche, verticale et alésée, placée sur un fond rouge et dont les branches, égales entre elles, sont d'un sixième plus longues que larges.
C'est pas pratique à dessiner à part ça, le drapeau suisse.
Heureusement,
moi j'ai un peu de peine.
Heureusement, c'est accompagné dans la loi même de schémas très nombreux et très précis pour que personne ne se plante. Donc quand même, on a 18 pages avec genre du texte et des schémas pour nous dire le drapeau suisse c'est comme ça et ne faites pas de conneries. Il y a une exception à ça, malgré tout, c'est la marine suisse.
Oui, la célèbre marine suisse.
Attention, c'est la marine marchande. Et ça, c'est un détail de l'histoire assez important.
La Suisse c'est important. Possédant un océan appelé le lac Léman.
Ça pourrait être la marine militaire, mais non, c'est la marine marchande. Et c'est un détail important, je vais y revenir. Vu que tous les drapeaux de marine fluviale comme de haute mer sont rectangulaires, la Suisse a dû s'y plier. Découle des réglementations internationales déjà en vigueur, donc lorsque la Suisse a voulu créer un pavillon maritime suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. À l'intérieur de cette loi de 18 pages, on a donc la version maritime. Et c'est quand même intéressant de se dire que pendant la Seconde Guerre mondiale, non, la Suisse elle faisait pas de la marine d'armée, non, elle échangeait avec les autres pays. Elle échangeait avec les autres pays, il faut pas déconner. Le commerce d'abord. Et ce qu'il faut savoir sur cette donc version officielle rectangulaire, c'est que les bords supérieurs et inférieurs ne sont alors plus de longueur égale avec ceux des bords latéraux, mais 50% plus longs. Les proportions de la croix restent les mêmes. Une chose est sûre. Oui, c'est très important.
Oui, c'est vrai. Alors finalement, au final, tu nous as pas expliqué pourquoi le drapeau était carré.
Je ne sais, ce n'est pas dans la loi.
Mais
la loi n'explique pas. Je suis désolé, je téléphonerai à la Suisse primitive.
Je pense que la conclusion de ton article est une très bonne explication.
Exactement. Une chose est sûre avec ces histoires de drapeaux, c'est qu'aussi bien avec le drapeau japonais qu'avec le drapeau suisse, on peut faire confiance aux militaires pour pas le mettre à l'envers.
Et oui, mais moi je crois que c'était uniquement pour ça. Au début, on avait peut-être un drapeau rectangulaire et puis les militaires faisaient n'importe
c'était
quoi.
C'était pour simplifier
avec,
le boulot.
On s'est dit, bon, les gars, d'accord.
Dans tous les sens, ça sera le même, les enfants.
C'est ça.
Et en plus, il est carré, donc vous pouvez vraiment pas foutre en paix, hein. Alors, Suisse toujours.
Suisse, pour l'affaire. Finir.
L'affaire.
Alors, l'affaire.
L'affaire.
Le scandale.
L'argent.
L'argent.
Le vol.
Dieu. Alors vous avez tout sans parler de la Suisse, non?
Je rêve d'une banque.
Non, Yann, détends-toi, calme-toi, tout va bien se passer.
Attends, je mets tout dans un coussin.
Ton compte en banque est bien en sécurité. Voilà, toi, tu étais dans une banque suisse et non pas dans une banque anglaise.
Hein. Exactement.
Bref, vous l'avez compris, je vais vous parler de SwissLeaks.
Oui.
C'est moi qui m'y colle puisque Yann avait déjà fixé ses sujets 2 semaines à l'avance.
Mais
ça,
voilà.
C'était une petite pique gratuite de ma part.
Voilà. Ma foi, il y en a. Il y en a qui bossent, il y en a qui reçoivent ses résultats des examens,
en plus
ils sont bons, et voilà.
Oulala. Bravo.
J'ai eu mon premier 6, merde.
Bravo.
Vous l'avez entendu ici en exclusivité. Merci. Samba, ah, c'était limite de la flamenco ce que tu m'as fait là. Parfait. Tu veux lancer une danse, tu fais des claquettes,
non? Je pense que c'est mieux pour tout le monde si ça n'arrive
alors,
pas.
Alors HSBC, ton très joli dessin.
Oui, alors j'ai fait un très joli dessin avec une croix suisse en fait de gouttes de sang. Puisque nous allons vous parler de l'affaire SwissLeaks.
Oui.
Et moi, j'ai l'intention de vous dire, l'affaire SwissLeaks, c'est une énorme connerie.
Oui.
Alors déjà, il n'y a pas... Alors, premièrement, on va parler de grammaire.
Oui.
SwissLeaks, c'est au pluriel. Hein.
Oui.
Et ça veut dire qu'on parle de plusieurs fuites. Mais en l'occurrence, on parle d'un seul ensemble de documents.
Mm-hmm.
Qui d'ailleurs n'a pas été fuité. Le concept de fuite, en fait, s'explique quand un employé d'une compagnie, d'un gouvernement, etc., va fuiter des informations à la presse, au grand public.
Et pourtant, des actionnaires du Monde, même plusieurs actionnaires du Monde, donc Berger et Pigas, ont déclaré « Oh là là, c'est pas bien, le Monde n'aurait pas dû relayer cela,
Mais oui, alors ça c'est encore autre chose, mais toujours est-il qu'au départ, on ne parle pas d'une affaire de fuite, on parle certes d'une affaire de...
D'un scandale.
De vol de données. Ouais. Qui s'est passé à un certain moment, mais elles n'ont pas été fuitées à la presse. Je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Mais je tenais à vous dire que ce n'était pas non plus un scandale, une affaire ou un scoop, puisque le set de documents dont on parle a été volé en 2006. Et 2006, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais ça fait un bail.
Ça fait 9 ans,
ça fait longtemps. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on en fait tout un plat actuellement.
Il y a 9 ans, j'avais... Bref, pardon, excuse-moi.
Tu étais jeune et innocent.
J'avais 14 ans.
Voilà. Et troisièmement, on a lu aussi qu'il y avait l'affaire SwissLeaks, ou on l'appelle parfois l'affaire Falciani, du nom de l'informaticien de HSBC qui travaillait donc à Genève.
Mais on en parlait beaucoup de Falciani déjà auparavant.
Voilà, on en parlait depuis 2006. Enfin, depuis 2007.
Oh.
Mais actuellement, si vous voulez, le SwissLeaks ne désigne que le moment où ces documents ont été filtrés à la presse.
Mmh.
Et c'est ça qui s'est passé cette année, c'est tout. Tout le reste, on parle de faits qui se sont passés dans les 9 dernières années.
Mmh.
Et donc actuellement, Falciani n'a rien à voir avec la diffusion à la presse de ces documents.
Oui.
Ce n'est pas lui qui l'a décidé, c'est le gouvernement français.
Oh.
Je vais vous expliquer ça. Et puis dernièrement, l'affaire SwissLeaks, alors certes, bien sûr, ça s'est passé un peu en Suisse, mais ça n'empêche la filière suisse d'une banque anglaise. Et les plus gros scandales ne concernaient pas des clients suisses, mais des clients internationaux. Donc tout le monde a dit oui, alors les banques suisses. Mais en attendant, j'ai entendu des gens dire non, mais c'était une banque anglaise qui nous apporte leurs pratiques scandaleuses dans notre beau pays dans lequel nous respectons pourtant.
Et non, mon cul est sur la commode.
Voilà, ça s'est entendu.
Juste une chose, par contre, parmi les plus grands clients qui ont été balancés et qui avaient le plus de thunes là-dedans, c'est, dans les deux cas, c'est que des Suisses. Hein. Majoritairement, c'est des Suisses aussi bien en termes de revenus qu'en termes d'individus.
Les Français, les Israéliens.
Non, mais c'est simple. C'est souvent des gens qui se sont installés en Suisse.
Ouais.
Justement, donc c'est expliqué. Mais c'est juste que c'est très intéressant de voir qu'en fait, beaucoup de gens qui placent et qui cachent leur argent en Suisse sont Suisses.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, Yann.
Oui.
Yann a changé son argent de banque.
On sait tout ce que je fais, c'est
depuis
ça
quelques semaines.
Ouais. Bah, pourquoi tu crois que je suis parti à Paris? Les banques suisses, elles sont plus sûres.
Ah ça.
Ça, la HSBC.
C'était bien calculé.
Je suis au Crédit Lyonnais. Non merde.
Mais une dernière chose qui est un contresens avec le scoop SwissLeaks, c'est que tout le monde était là. Ah mais mon Dieu, les banques suisses font des magouilles. Quelle horreur. Surprise et damnation, que sais-je. Enfin,
enfer et damnation.
Enfin,
pas le sang bleu.
Alors, je suis désolée, mais c'était de notoriété publique que les banques suisses, que plein de gens en Suisse font des magouilles bancaires. Ce n'est pas nouveau. Et oui, c'est très chouette de lui donner un petit nom en anglais et de dire que c'est un scandale, mais...
Surtout,
Enfin, alors, c'est tout sauf une surprise.
Je sais pas pour toi, mais moi, quand je voyage, enfin, on nous fait assez chier, justement assez chier en tant que Suisse en disant « Oh, la Suisse, l'argent, les banques, bebebebebebebe !» On supporte déjà souvent cette réputation-là, alors que nous, on travaille pas dans les banques, donc on en a un peu rien, rien à voir avec ces opérations-là. Donc,
non, bah, oui, y avait une certaine dose, il y avait une certaine dose d'hypocrisie là-dessus.
Oui, oui.
Bien sûr, c'est moins glamour que le chocolat comme c'est business vrai. Principal d'un pays, mais n'empêche que ça rapporte plus.
Et pourtant,
voilà,
c'est
laissez-nous
bon.
Tranquille.
C'est bon.
Et donc, ce qu'il s'est passé avec, oui. Avec l'affaire Falciani, donc,
oui.
Il a dérobé ses documents en 2006. Et puis, au début, certaines sources disent qu'il voulait vendre ses documents pour se faire de l'argent, pour refaire sa vie avec sa maîtresse.
Quel heureux homme.
Alors, d'autres disent aussi que c'est un scandale, que c'est les gouvernements qui essayent d'influencer les opinions à son sujet et que lui n'est qu'un petit agneau tout blanc qui voulait sauver l'humanité en divulguant cette liste.
L'histoire de la maîtresse, c'est un détail historique marrant, reste qu'effectivement c'est un peu crade de la part du gouvernement de révéler ça.
Bien sûr.
Mais c'est drôle,
non, alors
c'est drôle.
Apparemment c'est son ex-maîtresse qui a elle-même révélé ça et qui a dit qu'ils avaient voyagé ensemble au Liban pour revendre les données.
Oh là, ah oui, il avait eu les fois parce que le Liban n'est pas forcément super fan du chantage. Et ouais,
okay. Oui, alors c'était un peu compliqué. Toujours est-il qu'au bout d'un moment, M. Falciani décide non pas de passer ses données à la presse, mais de les donner au fisc français. Ce qui est rigolo, puisque par après, tout le monde l'appelle un whistleblower, un lanceur d'alerte, etc. Mais n'empêche que dans toutes les autres affaires de lanceur d'alerte, c'était des gens qui...
C'est la presse.
Enfin, c'était des gens qui avertissaient des malversations du gouvernement. Et là, en l'occurrence, il a donné son document au gouvernement, alors ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, bien sûr, mais n'empêche que du coup, le gouvernement français a étudié cette liste et il en a retiré un certain nombre de noms avant de le transmettre au gouvernement suisse qui demandait à le voir. Et donc, ils ont vraiment nettoyé cette liste et qui contenait, je l'ai pas encore précisé, mais simplement des listes de clients et leurs comptes en banque.
Ouais.
Qui contenait en fait les preuves que dans les années 2006-2007, HSBC avait permis et encouragé ses clients
à planquer leur argent
pour éviter de le déclarer au fisc. Donc, le fisc de plein de pays était intéressé par ça.
Y compris le fisc suisse.
Voilà, y compris le fisc suisse qui du coup s'est fait remettre une liste nettoyée, disons allégée de la part du gouvernement français.
C'est tellement parfait.
Qui, rappelons-le, est absolument intègre.
Effectivement, tous les pays européens qui veulent que la Suisse se régularise et qui ont genre Guernsey ou des coins comme ça, les Islandes, enfin bref, on va passer là-dessus, mais personne n'est innocent dans ce genre d'affaires, hein, loin de là.
Donc comme tu dis, ce n'est ni un scandale, ni une surprise.
Ouais.
Alors c'est un jeu de faux cul, mais ce qui est nouveau, ce qui nous surprend, c'est que cette fois on a des preuves.
On a des noms.
Voilà, on a des noms et on sait comment ça se passe, on a la preuve que la banque encourageait ses clients à pratiquer l'évasion fiscale, ce qu'on avait un petit peu auparavant, mais pas à une telle échelle. Et puis, ce qui est triste, ce que je trouve triste avec cette histoire de HSBC, c'est qu'il y a eu toute une série de noms qui ont été révélés à la presse, et globalement, comment dire, tout le monde parle de Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, Cédric Clapiche, on parle du people,
non.
Tout le monde s'en fout vraiment de savoir qu'il y avait des clients de HSBC qui étaient des trafiquants de diamants en Afrique, qui étaient...
C'est vrai que la saleté de l'argent était moins...
Voilà, la mafia colombienne, la mafia portugaise, la mafia russe...
Portugaise
J'ai dit portugaise.
T'as dit portugaise, j'ai l'impression.
Je voulais dire mexicaine.
Parce que j'ai entendu... Non, t'as dit portugaise. Je confirme que t'as dit portugaise.
Je regrette. Je voulais dire mexicaine.
Caramba.
Voilà. Encore raté.
Plutôt carambèche, du coup, mais si tu mélanges les deux.
Enfin, tout ça pour dire, moi, je trouve, dans le jeu d'Ifocus, on y va vraiment jusqu'au bout, puisque le grand public prend un malin plaisir à casser du sucre sur le dos des personnalités célèbres.
Ouais.
Et quand il y a un peu des problématiques sérieuses qui sont impliquées, tout le monde s'en fiche. Enfin, c'est vraiment deg.
Je suis d'accord,
mais
pourquoi est-ce que tout le monde n'a pas dit Gad Elmaleh? Parce qu'il nous casse... les pieds avec une publicité qui tourne sur toutes les chaînes françaises en ce moment où il fait une pub pour une banque. française, où littéralement le pitch de la publicité c'est je rêve d'une banquie, etc. Puis il parle de sa banquie idéale devant un faux public comme si c'était dans un de ses spectacles. Donc du coup ça l'a transformé en cible parce que c'est beaucoup trop facile, c'est beaucoup trop drôle en fait que ce mec-là se fasse choper dans une histoire de blanchiment d'argent ou d'échapper au fisc. En l'occurrence, c'est plutôt échapper au fisc, mais voilà, il y a deux facettes à cette affaire-là.
Donc, disons que de faire ça dans l'intérêt du public, oui, mais je pense pas que l'intérêt du grand public était vraiment de savoir que Gad Elmaleh avait un compte. D'ailleurs, certains de ces comptes sont parfaitement légaux.
Donc tu...
C'est ça que les gens ne se rendent pas compte non plus. Dans certains cas, dans certains pays, il est tout à fait légal d'avoir un compte à l'étranger.
Ouais,
et même d'avoir un compte en Suisse. Et j'ai trouvé que la couverture médiatique était clairement...
Beaucoup d'étudiants qui viennent pour une longue durée en Suisse ont besoin d'un compte en Suisse. Ils le déclarent, simplement.
Était clairement biaisé.
J'ai un pote
dans certains cas, t'as le droit d'avoir un compte offshore pour une entreprise, etc. Et t'es pas toujours dans l'illégalité. Et puis les médias disaient forcément que dès que n'importe qui a un compte, beaucoup des noms qui étaient sur cette liste, un certain nombre, étaient des comptes légaux.
Après, je crois que les affaires de spécifiquement NSA et CIA nous ont proposé, nous ont appris que quelque chose de légal n'est pas forcément quelque chose de moral.
Ouais.
Mais effectivement, c'est possible. Et je vois que tu craques la première en dépliant tes jambes.
Oui.
C'est là-dessus qu'on se quitte.
Il est l'heure d'arrêter.
Ce numéro. Exactement.
J'ai plus de sang dans les jambes, mais j'ai pas envie de me faire amputer.
On vous retrouvera à la fois Cujat et dans 3 semaines pour un prochain numéro de Carrément Méchant. Émilie, on peut te suivre à Roulet sur Twitter.
C'est moi.
On peut me suivre à TingsHD. Vous pouvez nous suivre, commenter l'actualité.
@méchantRK.
Exactement. On se retrouve donc sur radioquiva.com pour un prochain numéro dans 3 semaines. Et puis d'ici là, on se quitte sur du Jonathan Coulton. Ça s'appelle Millionaire Girlfriend. Et on se l'écoute tout de suite. À bientôt.
Ciao.
If it takes that long, I know she's out there. For I have heard her song in dreams. She sings to me, her angel's voice, a symphony. Is she in a garden or a meadow fair? Does the dappled sunlight shine ribbons in her hair? Does she sit patiently, smiling as she waits for me? She's my millionaire girlfriend. She's my life. Once I finally find her, I'll get permission from the wife. We will all live in a castle. Girlfriend and I. She's a stolen secret from a pirate's chest. I will wear an ascot and a suit that has a vest, and I will put it on as I watch Gardner mow the lawn. Of old, I will have a toothbrush that is made of solid gold, and I will watch TV as my manservant flosses me. She's my millionaire girlfriend, and she's my life. Once I finally find her, I'll get permission from the wife. We will all live in a castle high. My beloved and my millionaire girlfriend and I. Does not matter to me if she's pretty. All that counts is what she's got at Citibank. Chase Manhattan or even Washington Mutual. When my search is ended, I will cherish her. She will sign some papers, give me power of attorney, and what's hers will be mine in perpetuity. get permission from the wife. We will all live in a castle high. My beloved and my millionaire girlfriend and I. My beloved and my millionaire girlfriend and I. My beloved and my millionaire.